Bonsoir. Le gouvernement de la RDC déclare avoir transmis le 25 juillet dernier, par voie diplomatique à la République du Rwanda, 3 mandats d'arrêt internationaux qui visent 4 de ses ressortissants, membres du M23, réfugiés sur le territoire rwandais. Que pensez-vous de ces mandats d'arrêt internationaux? Nous allons en parler avec le professeur Tshibangu Kalala, il est professeur de droit international à l'Université de Kinshasa. Il est aussi président du parti politique Notre Beau Pays, c'est un parti proche de la majorité présidentielle. Bonsoir professeur Tshibangu Kalala.
Bonsoir Dimati.
Maître Richard Bondo, il est président de l'ONG Avocats Sans Frontières RDC, il est conseiller à la CPI et au tribunal spécial pour le Liban. Bonsoir Maître Richard Bondo.
Bonsoir Dimati.
Et Dispas Kitenge, il est président du groupe Lotus, c'est une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Et il est aussi vice-président de la Fédération internationale de défense des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonsoir Dismas Kitenge.
Bonsoir Guy Martin.
Michel Fariala de Kindu Manyema, ces mandats n'auront aucun effet car le Rwanda n'avait jamais manifesté la volonté de coopérer avec la RDC parce qu'il tire profit en déstabilisant l'est du pays. Justin Lusamba de Kananga au Kasaï occidental, je demande au gouvernement de la RDC de faire beaucoup plus de pression avec insistance à la CPI afin de persuader le gouvernement rwandais à nous livrer ces personnes. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouvernement de la RDC dit avoir transmis le 25 juillet dernier par voie diplomatique d'usage à la République du Rwanda trois mandats d'arrêt internationaux qui visent 4 de ses ressortissants réfugiés sur le territoire rwandais. Il s'agit d'exploits signés par l'auditeur général des FRDC, officier du ministère public près la haute cour militaire, le général-major Joseph Pondé Issamboa, en charge des individus poursuivis pour des crimes relevant de la justice militaire. Ces mandats Jean-Marie Runiga, il était président du M23, le colonel Baudouin Garouillet, général de brigade autoproclamé du M23, le lieutenant-colonel Eric Badegué, colonel autoproclamé du M23, et enfin le colonel Zimourinda Innocent. Mireille Boukassa Mukendi pour les détails.
Ces 4 responsables du mouvement du 23 mars sont poursuivis pour des faits de constitution d'un mouvement insurrectionnel, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, meurtre, emprisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, persécution pour des motifs ethniques, crimes de guerre par torture, enrôlement, conscription et utilisation des mineurs de moins de 15 ans dans les groupes armés. Selon le communiqué signé par le ministre Lambert Mende et diffusé vendredi dans la soirée par les médias officiels, le gouvernement de la RDC dit attendre avec intérêt la réponse du gouvernement du Rwanda conformément à l'accord de coopération judiciaire entre les deux pays, conformément aux engagements contenus dans le point 5 de l'accord cadre d'Addis Abeba et conformément aux dernières recommandations du Conseil de sécurité de l'ONU lors de la réunion consacrée à la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs le 25 juillet 2013.
Professeur Tshibangu Kalala, je rappelle que vous êtes professeur de droit international à l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi président du parti politique Notre Beau Pays. C'est un parti proche de la majorité présidentielle. Trois mandats d'arrêt internationaux lancés contre ces 4 responsables du M23. Et comment vous expliquez cette démarche du gouvernement?
Oui, merci Guy Maté d'abord pour m'avoir invité à cette émission. Oui, je constate que le gouvernement a bien fait et voire même très bien fait les choses. Le gouvernement a lancé ses mandats d'arrêt internationaux par le biais de la justice militaire, bien entendu. C'est dans le cadre de la lutte contre l'impunité, qui est en fait une lutte mondiale, la lutte de tous les peuples de la Terre, qui veulent que tous ceux qui commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, donc qui sont des crimes les plus graves, que ces personnes ne puissent trouver sur la terre des hommes aucun endroit où elles peuvent se cacher. Ce sont des ennemis de toute l'humanité. Et donc, le gouvernement de la République, en agissant de cette manière-là, donc, s'engage dans cette lutte sur le plan national. Mais aussi, je tiens à le souligner, le Conseil de sécurité, au terme de la résolution 2098 du 28 mars dernier a demandé au gouvernement congolais, les gens peuvent aller consulter sur le paragraphe 21 de cette résolution, demander au gouvernement congolais de poursuivre toutes les personnes qui auraient commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes d'agression, et de veiller à ce que ces personnes répondent de leurs actes devant la justice. Et là, on voit que la RDC se fait un bon élève de la communauté internationale dans cette lutte, comme je l'ai dit, une lutte mondiale pour punir tous ceux qui commettent les crimes les plus graves. Donc c'est une bonne action.
Professeur, le gouvernement de la RDC dit attendre avec intérêt la réponse du gouvernement du Rwanda, conformément à l'accord des coopérations judiciaires entre les deux pays, conformément aux engagements contenus dans les points 5 de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement se base sur l'accord cadre d'Addis Abeba quand on sait que cet accord cadre ne constitue pas une convention d'extradition judiciaire?
Oui, vous avez raison. Là, vous m'avez mené dans le domaine de ma spécialisation. Et donc, c'est vrai, l'accord cadre dit clairement ceci, l'accord du 24 février 2013, dit clairement ceci, que les États, donc y compris la RDC et le Rwanda, pour parler du Rwanda qui est concerné, s'engagent à ne pas héberger, nous fournir une protection quelconque, de quelque nature que ce soit, aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou des crimes d'agression, et ou aux personnes qui sont sous le régime des sanctions des Nations Unies. Donc, le Rwanda, comme tous les autres pays, ils sont 11 qui ont signé cet accord, se sont engagés à ce sens-là. Et plus loin, dans le même accord, les États se sont engagés, le Rwanda en particulier, parce qu'il s'agit du Rwanda, s'est engagé à faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire au sein de la région. Voilà ce qui est mis dans l'accord cadre.
Alors, à votre avis, entre une convention d'extradition judiciaire et un accord international, qu'est-ce qui prime?
Je vais y arriver. Mais il n'y a pas que l'accord cadre, parce que cet accord cadre a été endossé par le Conseil de sécurité.
À travers la résolution 2098.
2098. Et là, on est à un autre niveau, Guimaté. Parce que là, nous sommes dans la Charte des Nations Unies. Dans la Charte des Nations Unies. Parce que la résolution 2098, c'est une obligation. Elle est contraignante à l'égard de tous les États membres. Et en particulier au Rwanda, RDC et tous les autres. Et dans cette résolution, je renvoie les auditeurs de Radio Capi au texte de la résolution, sur le paragraphe 2 de cette résolution, le Conseil de sécurité exige... C'est une exigence, parce que c'est une résolution qui est prise sur la base du chapitre 7 et exige de tous les États qui ont signé l'accord d'Addis Abeba de l'appliquer immédiatement, de l'appliquer de bonne foi. Et donc, c'est une obligation pour le Rwanda en particulier, qui est du reste membre du Conseil de sécurité.
Et donc, même le Conseil de sécurité des Nations Unies se base sur la bonne foi des États.
Non, mais écoutez... L'application de bonne foi, ça c'est un concept de droit international, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à trouver de fausses raisons, de raisons fallacieuses pour ne pas exécuter une obligation internationale. C'est ce que ça veut dire. Mais la résolution, elle est obligatoire, elle est contraignante, et donc le Rwanda, comme tous les autres pays, doivent l'appliquer. Maintenant, vous dites, mais écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un accord d'extradition entre les deux pays? Et là, vous m'amenez à faire allusion à l'article 103 de la Charte des Nations Unies, qui dit ceci, que pour tous les États membres des Nations Unies, le Rwanda en particulier et tous les autres, acceptent, se sont engagés pour faire en sorte que le jour où il y a un conflit entre leurs obligations découlant de la Charte et d'autres obligations qui découlent d'autres actes, d'autres accords internationaux, ce sont les obligations de la Charte qui priment. Et donc, à partir du moment où le Conseil de sécurité demande au Rwanda d'appliquer l'accord cadre, et l'accord cadre prévoit déjà des obligations bien précises, et ces obligations ont été incorporées dans la résolution parce qu'il y a l'annexe A et B qui se trouvent dans la résolution, et donc, le Rwanda ne peut pas invoquer sa loi interne, pour dire, écoutez, je ne peux pas extrader les personnes qui sont réclamées par la RDC. Et donc, sur le plan juridique, même si la loi rwandaise, parce que c'est une pratique générale. Il y a des pays qui disent, écoutez, moi je ne peux pas extrader mes nationaux, ou bien je ne peux pas extrader des gens qui ont commis des crimes politiques. Et donc dès lors qu'il y a des obligations internationales qui pèsent sur le Rwanda, que le Rwanda a accepté, ces obligations internationales découlant de la charte priment toutes les autres obligations, y compris s'il n'y a pas un accord d'extradition ou il y a un accord d'extradition qui prévoit, qui pose des conditions, eh bien, la résolution du Conseil de sécurité s'impose et le Rwanda doit pouvoir extrader ces personnes, les arrêter d'abord et les extrader vers la RDC.
Merci, Maître Richard Bondo. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Avocats sans frontières RDC. Vous êtes aussi conseiller à la CPI au tribunal pénal spécial pour les Libans. Et quelle analyse faites-vous de cette démarche menée, initiée par le gouvernement congolais?
Merci beaucoup de la question. Je voudrais simplement préciser que la démarche du gouvernement est une démarche empreinte de beaucoup de responsabilités. Pourquoi? Parce que, exploitant l'économie de l'accord du 24 février, donc l'accord d'Addis Abeba, exploitant l'économie de la résolution 2098, et même la convention de coopération judiciaire entre les deux pays, et même dans la région des Grands Lacs, le gouvernement s'est dit, nous sommes tenus d'exécuter certaines obligations internationales. Est-ce que les criminels, les quatre membres du M23 qui sont au Rwanda, réfugiés au Rwanda, ne peuvent-ils pas être extradés? Mais pour jauger de la bonne foi du Rwanda, qui, il faut le rappeler, a siégé au Conseil de sécurité lorsqu'on prend cette résolution 2098.
Comme membre non permanent.
Comme membre non permanent. Ce qui voudrait dire que le Rwanda est lié par sa signature à poser sur cette résolution.
En dépit du fait qu'il n'y a pas d'accord de convention d'extradition entre les deux pays.
Le problème... Le professeur l'a dit, l'article 103 de la Charte des Nations Unies impose aux partis de transcender leurs lois au profit des engagements ou des obligations internationales. Or, l'obligation internationale aujourd'hui, c'est de considérer que les quatre personnes poursuivies par la RDC sont auteurs des crimes les plus graves sur la partie est de la RDC. Et que, sur le plan international, l'humanité tout entière est choquée des crimes que ces gens ont causés sur le territoire congolais. Et pour respecter ces engagements internationaux, le Rwanda n'a plus d'autre prétexte. Au fait, la République démocratique du Congo, par le lancement de ses mandats, essaie de prendre à témoin la communauté internationale par rapport au comportement du Rwanda vis-à-vis de ses engagements internationaux, et que le Rwanda aujourd'hui, qui voudrait qu'il soit considéré sur le plan international comme une nation qui compte, le gouvernement du Rwanda devra être obligé d'extrader vers le Congo ces personnes qui sont recherchées.
Maître, revenons à cette démarche. Si le gouvernement veut lutter contre l'impunité, pourquoi il initie une démarche sélective, hein? Pourquoi ne lance-t-il pas également un mandat d'arrêt national à l'endroit de tous les dirigeants des différentes rébellions, n'est-ce pas, qui sévissent sur le territoire congolais? Pourquoi seulement les quatre responsables du M23 qui se retrouvent sur les sols rwandais?
Non, là, il y a un problème. C'est qu'il y a quatre dirigeants, quatre grands responsables du M23 qui se sont réfugiés au Rwanda. Alors, parce que le Rwanda, pendant que ces résolutions sont prises, ou que la résolution est prise, l'accord signé par lui-même le Rwanda soutient les Human Rights Watch et même la MONUSCO. Ils ont fait des rapports attestant le soutien du Rwanda, et il a même été rappelé à l'ordre par les États-Unis.
Des rapports qui ont toujours été rejetés par le Rwanda.
Non, il peut rejeter, mais les preuves sont là. Le problème, c'est que au niveau de la diplomatie congolaise, au lieu de mettre toutes ces preuves à la place publique ou les confier à des avocats congolais pour faire des études d'éventuelles action dirigée contre le Rwanda, on ne le fait pas. Mais toujours est-il que les preuves que le Conseil de sécurité détient chargent le Rwanda. Et le Rwanda, même s'il n'y a pas de cette convention d'extradition, on prend à témoin la communauté internationale et le Rwanda risque d'être marginalisé comme un État voyou. Vous savez, dernièrement, à Kampala, le Rwanda a traité le gouvernement tanzanien d'un sympathisant des génocidaires.
Mais pour, lui avoir, aussi pourra, pour lui avoir proposé oui, de négocier avec,
avec l'FDLR ou son opposition. Mais lui aussi, la communauté internationale, il risque de le traiter comme de lui renvoyer la monnaie de sa pièce.
Dismas Kitenge, je rappelle que vous êtes président du groupe Lotus, c'est une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani, en province orientale. Vous êtes aussi vice-président de la Fédération internationale de défense des droits de l'homme, FIDH en sigle. Est-ce que vous voyez aujourd'hui les Rwandais accepter d'extrader les personnes qui l'ont servi? Allô, Dismas Kitenge? Apparemment, on l'a perdu. Oui, professeur Tshibankalala, voyez-vous aujourd'hui le gouvernement rwandais extrader ces personnes qui l'ont considérablement servi?
Oui, mais nous l'avons dit. Le problème ici, c'est de savoir quelles sont les obligations de l'Ouganda, disons, du Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda a signé l'accord d'Addis Abeba. Le Rwanda est membre du Conseil de sécurité et a participé justement au débat et est auteur de la résolution 2498. Et donc, ce n'est plus encore un problème interne, une espèce de face-à-face RDC-Rwanda. Nous sommes à une autre dimension. Et le gouvernement a très bien fait les choses parce que dans les mandats d'arrêt, ces personnes sont poursuivies pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc, le Rwanda est lié. Parce que le Rwanda s'est engagé à ne pas accepter sur son territoire...
Puisqu'il s'agit de la bonne foi des États. Les Rwandais peuvent ou ne pas accepter de se conformer à ces engagements.
Non, ce n'est pas une question de bonne foi, ici. La bonne foi, c'est un autre concept. C'est-à-dire que si vous avez signé un engagement, eh bien, vous devez l'exécuter parce qu'il vous lie. Il ne faut pas chercher de fausses raisons pour échapper à ces engagements. Et donc, c'est ça, les pacta sunt servanda, comme disent les juristes. Et donc, les accords lient, vous devez les respecter. Maintenant, le problème que vous avez soulevé, c'est de dire, mais est-ce qu'il y a un accord d'extradition? Parce que le mandat d'arrêt, c'est d'abord mandat d'arrêt. Ce n'est pas encore l'extradition. C'est lorsque le Rwanda va arrêter ces personnes, eh bien, qu'on va lui transmettre une demande d'extradition. Belle chose. Maintenant, la question de savoir, est-ce que le Rwanda va le faire? Pour moi, Maître Bondo l'a dit, pour moi, le Rwanda est tenu de respecter ses engagements internationaux. Et le gouvernement, notre gouvernement, a entre les mains des outils de travail, des outils diplomatiques, des outils juridiques qui peuvent lui permettre de faire pression sur le Rwanda pour que le Rwanda s'exécute. Nous avons le mécanisme 11+4, donc les 11 pays qui ont signé l'accord d'Addis Abeba, les 4 garants, le secrétaire des Nations Unies, etc., qui sont là pour surveiller, pour voir quel est l'État qui ne respecte pas ses engagements internationaux. Nous avons Mary Robinson, madame, qui est là, envoyée spéciale, très grand lac, qui surveille tout ceci. Et donc, le gouvernement a des adresses, il a des portes où il peut aller toquer pour dire, écoutez, voilà, le Rwanda ne respecte pas ses engagements, je poursuis telle personne qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Mais attention, c'est encore des personnes qui sont présumées innocentes. Hein. Mais il y a des poursuites. Mais voilà, le Rwanda ne les livre pas. Je vous demande, vous, mécanisme 11+4. Je demande, vous, Mary Robinson. Je demande, vous, secrétaire général des Nations Unies, etc., de faire pression sur le Rwanda pour qu'il respecte ses engagements. Merci. Et donc, le gouvernement congolais a beau jeu. Et il a vraiment des instruments pour agir, pour faire pression sur le Rwanda, eh bien, parce que ce n'est pas une affaire de face à face, la communauté internationale peut s'impliquer, et je pense que le Rwanda ne va pas accepter d'être traité comme un État voyou qui ne respecte pas sa signature, il pourra se conformer.
Merci, voilà. Dismas Kitenge, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, Dikimand.
Oui, je rappelle que vous êtes président du groupe Lotus, c'est une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani, province orientale. Vous êtes aussi vice-président de la Fédération internationale de défense des droits de l'homme, FIDH en sigle. Vous avez suivi les interventions de Maître Bondo et du professeur Tshibankalala. les Rwandais aient tenu de respecter ces engagements internationaux. Est-ce que c'est pas c'est, ça c'est pas la théorie, une simple merci théorie.
Bon, merci beaucoup Guy. Mathé, ça me semble un peu plus théorique. Donc je dirais ceci, la RDC a fait une étape importante, déjà en émettant ses mandats d'arrêt internationaux contre personne, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour deux raisons principales, à mon sens. La première raison, c'est qu'il faudrait d'abord que la RDC épuise tous les moyens à sa possession. D'une part, le moyen juridique, d'autre part, le moyen politique et enfin, le moyen diplomatique pour obtenir les résultats qu'il vise. Les résultats qu'il vise, c'est que ces personnes soient extradées en RDC et qu'ils soient poursuivis sur le plan judiciaire. Deuxièmement, nous le savons tous, que le droit international est limité aujourd'hui par le problème d'efficacité de ces sanctions et par l'absence des contraintes vis-à-vis des États. Que pour contourner cette difficulté, on mise beaucoup sur les pressions politiques, les pressions diplomatiques, pour pousser les États à respecter leurs engagements qu'ils ont pris sur le plan international. Quand bien même il s'agit de la ratification des traités internationaux ou bien même de la signature d'autres types d'engagements sur le plan international. Troisièmement, à côté de tous ces moyens, à mon sens, que la RDC devra épuiser, sur le plan juridique, il y a encore beaucoup à faire. Il ne suffit pas tout simplement d'émettre de mandat d'arrêt, mais il faut bien étoffer les dossiers. Il faut étudier bien le mécanisme pour que les victimes de ces actes puissent se constituer en partie civile dans le cadre de notre droit interne. Mais aussi sur le plan international, il faut déjà que ces victimes qui ont souffert.
Et quels sont les éléments que la RDC doit ajouter dans son dossier, n'est-ce pas, pour étoffer cette démarche judiciaire?
La stratégie pour moi, c'est d'abord que les victimes puissent se manifester. Les victimes de ces crimes-là internationaux qui ont été commis par ces hommes puissent se manifester, puissent donc saisir la justice, puissent, disons, alléguer les préjudices qu'elles ont subis sur tout le plan, que ce soit sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan matériel. Ça va donner un plus au dossier de la RDC. Que les victimes réclament justice. Après avoir, disons, déclaré tout ce qu'elles ont subi comme préjudice, que ces victimes commencent à se manifester aux côtés de l'État congolais, puisque le ministère public représente la société, représente donc l'État, mais il faut que les victimes de ces actes aussi puissent maintenant se manifester, commencer à parler, à exiger que justice soit faite, à exiger que la réparation leur soit attribuée. Ça serait un élément de plus qui viendra appuyer, renforcer l'action du ministère public à l'heure actuelle. Bon, il faudrait aussi que les victimes, d'où les communautés dont sont ressortissantes les victimes, puissent aussi réclamer, c'est-à-dire à travers les associations de victimes, à travers la société civile en général, puissent aussi renforcer les actions du ministère public de l'État congolais. De cette façon-là, les Rwandais et les personnes qui ont commis ces crimes auront une pression forte sur venant de tous côtés au niveau des acteurs que j'ai mentionnés. Alors je disais ça peut être sur le plan de la stratégie judiciaire. Sur le plan de la stratégie judiciaire, il ne faut pas non plus oublier, là on mène des actions sur le plan du droit interne. Mais il faut imaginer les scénarios aussi du droit international. Et pour le cas d'espèce de la CPI, l'État congolais peut saisir la CPI, puisque c'est un État parti au statut de Rome. Quand bien même ces personnes-là sont au Rwanda, mais elles ont commis des crimes sur le territoire d'un État parti. Donc, pousser le procureur, avec les victimes que je venais de dire, pour que le procureur de la CPI puisse également, avoir des éléments qui peuvent le pousser à solliciter des mandats d'arrêt au niveau des juges de la CPI contre ces personnes-là.
Monsieur Dismas Kitenge, voilà.
Mais ça ne suffit pas.
Allô?
Ça ne suffit pas. Il faut. Allô, oui.
Oui, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient du Sud Kivu, à Bukavu, du site Kivu. C'est au site Kivu.
Franklin Matumaini de Bukavu, dans la province du site Kivu. C'est vraiment de la peine perdue, car le Rwanda n'hésitera pas à déclasser sans suite cette requête de la RDC. Je pense que le gouvernement congolais devrait appuyer la démarche du gouverneur du Nord Kivu en saisissant officiellement la CPI, car non seulement la RDC ne rassure pas qu'avec sa justice, elle est capable de rendre une justice à la satisfaction des victimes, mais aussi et surtout, il faut se demander s'il existe un accord d'extradition entre la RDC et le Rwanda. Tous ces gens sont au Rwanda parce qu'ils sont en train d'être idéologisés à nouveau pour être réutilisés et ne peuvent en aucun cas être extradés par le Rwanda. Les cas Kunga et Mutebusi en témoignent.
Dismas, il va dans le même sens que vous. Il y a même récemment le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a appelé la CPI à pouvoir se saisir du cas Nord Kivu. Lui ne comprend pas que cette juridiction internationale se penche sur certains cas à travers le monde et ne le fait pas quand il s'agit de la guerre du Nord Kivu, qui a pourtant fait plus de 6 millions de victimes.
Je réponds simplement que j'ai travaillé beaucoup avec la CPI en tant qu'organisation nationale international de défense des droits humains. Je crois que le procureur de la CPI a plus besoin d'éléments de preuve. Et il faut lui fournir ces éléments de preuve. Et comme je venais de dire, il y a trois acteurs qui peuvent le faire. D'un côté, l'État congolais, avec les éléments de preuve qu'il a récoltés, puisqu'il ne s'agit pas seulement de faire de décerner un mandat d'arrêt. Peut-être le mandat d'arrêt serait vite s'il n'y a pas des éléments de preuve suffisantes, convaincantes. Je pense qu'il faut vraiment étoffer bien les dossiers. Il faut que le victime aussi se manifeste en donnant le témoignage, en donnant les éléments de preuve. Il faut que les communautés qui ont souffert de ces crimes, qui sont des crimes internationaux, puissent également se manifester en fournissant des éléments vraiment de preuve au procureur de la CPI. Et je crois il faut aussi interpeller les procureurs. Après lui avoir fourni tous ces éléments, il faut que pousser le procureur à faire son travail correctement.
Merci,
à l'interpeller que nous avons fourni tel élément et le procureur n'a pas réagi. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est sur le plan de stratégie. Je disais, il faut des moyens de stratégie. Il y a des moyens juridiques. Il y a avec des stratégies judiciaires que je venais de donner. Mais il y a aussi des moyens politiques avec des stratégies politiques. Des moyens politiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement de la RDC avec le gouvernement du Rwanda ont des relations diplomatiques, des relations politiques. Le gouvernement de la RDC devrait faire pression sur le gouvernement du Rwanda. Et doivent faire aussi des alliances avec d'autres États pour exercer des pressions sur le Rwanda. Ça ne suffira pas, mais il faut arriver encore aux moyens diplomatiques. Pour arriver à obtenir le résultat qu'on vise.
Merci,
on peut utiliser tous les moyens qui sont permis, tous les moyens d'usage, comme je venais de dire, avec des stratégies fortes. Des stratégies fortes, c'est-à-dire l'implication de plusieurs acteurs, des acteurs nationaux et internationaux, pour arriver à exercer la pression. Puisque le problème, c'est que
Merci Dismas Kitenge. Maître Richard Bondo, la démarche de la RDC ne suffit pas. Il faut que la RDC étoffe son dossier judiciaire et à cet effet, il faut que les victimes puissent se manifester et réclamer la réparation.
Je crois qu'il faut, étant donné que Okapi est capté à travers le monde entier, il faut que les choses que nous disons soient raisonnables. Il ne faudrait pas faire rêver les gens. Hein. Le problème ici, nous ne devons pas mettre la charrue avant le bœuf. Le mandat, comme l'a dit le professeur, c'est un outil, un détonateur de l'action. Le mandat, s'il est exécuté par le Rwanda, c'est à ce moment-là que les victimes peuvent se manifester. Mais je comprends, Maître Kitenge, le problème c'est que son ONG, la nôtre, le groupe Lotus, Avocats sans frontières, La Voix des sans-voix, toutes les ONG, tant à l'est du pays qu'à Kinshasa, à travers toute la République, et même les consoeurs internationales ont des dossiers contre tous ces groupes armés. Et ces dossiers ont convaincu la communauté internationale à pointer du doigt le Rwanda comme un État qui soutient la rébellion. Et même les rebelles ont été indexés. Les Runigala ne peuvent pas voyager. Il y a leurs avoirs qui sont gelés. C'est-à-dire la communauté internationale attendait un geste de la République démocratique du Congo. Le mandat vient d'être lancé. Mais il y a un problème. Est-ce que le gouvernement est sûr de la nationalité de ces quatre-là? Si Runiga, donc, selon mes informations, est du Sud Kivu, mais les trois autres, s'ils sont rwandais, je vois mal comment, avant l'extradition, le mandat peut même être bien reçu et examiné par le Rwanda
pour être exécuté. Le communiqué du gouvernement dit qu'il s'agit des ressortissants de la RDC.
Vous savez, le gouvernement nous a dit que Ntaganda était congolais. Ntaganda arrive à la CPI, il s'exprime en Kinyarwanda et il dit qu'il est rwandais. Karegeya, l'ancien chef de renseignement de Kagame, a dit dernièrement que Ntaganda était rwandais, Nkunda Abattoir était rwandais. Donc, nous, on ne peut pas croire comme si on était des moutons, parce que Albert Einstein a dit, on ne peut appartenir à une communauté de moutons que si l'on en est véritablement soi-même mouton. Le peuple congolais ne peut pas tout consommer avec ces quatre personnalités, à l'exception peut-être de Runiga, bon, dont j'ai les informations des Sud-Kivusiens qui m'ont dit qu'il est du Sud-Kivu, mais les trois autres, s'ils sont rwandais, là, il ne faut pas rêver. C'est ainsi que je dis, nous, les défenseurs des droits humains, ne devons pas non plus croire que lorsque le gouvernement lance un mandat, le Rwanda peut ne pas l'exécuter. Non, le Rwanda est lié parce que la résolution 2098, le Rwanda en est co-auteur. Et le Rwanda doit au moins, en siégeant avec ses pairs au Conseil de sécurité, montrer qu'il est respectueux de sa propre signature.
Mais le Rwanda, c'est un membre effectif, n'est-ce pas, de l'Union africaine, qui siège aux différentes réunions, mais cela ne l'a pas empêché de pouvoir instrumentaliser des personnes à travers des groupes armés pour déstabiliser la RDC.
Oui, mais ça, c'est vous savez, il y a un temps pour tout. Le Rwanda a joué ce rôle, mais le problème, c'est que notre gouvernement ne semblait pas prendre le problème à cœur. Mais aujourd'hui, avec ce mandat, le gouvernement voudrait se racheter. Nous lisons que le gouvernement voudrait se racheter. Mais comme il veut se racheter, pour évacuer l'accusation qu'il était complice du Rwanda, je crois qu'il a lancé ce mandat. Et le mandat peut être exécuté au moment, en ce moment-ci, parce que le Rwanda est co-signataire, disons, est co-auteur de la résolution 2098 et il est en même temps co-signataire de l'accord du 24 février.
Merci, professeur Tshibankalala. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au Sud Kivu.
Robert Bahome de Bukavu au Sud Kivu. Lancer des mandats d'arrêt internationaux contre Jean-Marie Runiga et ses acolytes est une bonne chose pour la RDC afin de ne pas consacrer l'impunité. Cependant, en moins d'une contrainte ou d'une pression internationale très sérieuse sur le Rwanda, je ne pense pas que ce dernier puisse facilement extrader se protéger à la RDC ni le livrer à la CPI, car le Rwanda n'a jamais été de bonne foi par rapport au respect et à la mise en œuvre des engagements qu'il a pourtant pris et signé avec les autres.
Le Rwanda ne va pas extrader ces personnes à la RDC à moins des pressions internationales. Comment vous expliquez ce scepticisme qui est exprimé, n'est-ce pas, par tous ces différents auditeurs?
Oui, c'est vrai. Je comprends. Il y a le passé. Mais ils doivent comprendre que le contexte international et régional a changé. On n'est plus en 2008, 2009, 2010. Les choses ont changé. Cette fois-ci, le Rwanda à des obligations internationales qui pèsent sur lui, il assume. Et il est même membre du Conseil de sécurité. Bon, il faut faire un peu de pédagogie quand on est sur le studio de Radio Okapi. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a quelqu'un qui a dit, mais il faut s'adresser à la CPI. Mais attention, la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales. Aujourd'hui, nous avons les juridictions militaires pénales congolaises qui agissent, qui lance des mandats d'arrêt internationaux et qui poursuivent ces personnes. La CPI ne peut pas intervenir parce qu'elle est complémentaire. Ce n'est que si les autres constatent que ça ne marche pas vraiment, que c'est difficile, ils peuvent refiler le dossier à la CPI. Mais pour le moment, la justice congolaise agit. Donc il ne faut pas mêler la CPI parce qu'ils peuvent intervenir. Mais maintenant, le problème c'est quoi? C'est ce que Maître Bondo vient de dire. S'il n'y avait pas ces obligations internationales, si le contexte n'avait pas changé, on allait vraiment avoir un problème. Parce qu'en ce moment-là, le Rwanda allait invoquer, par exemple, sa loi nationale. La pratique internationale montre que beaucoup de pays refusent d'extrader leurs nationaux dans leur loi nationale. Refusent d'extrader les nationaux. Kadhafi l'a fait vis-à-vis des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a refusé d'extrader les Libyens qui étaient poursuivis avec l'attentat de Lockerbie. Donc, il y a aussi une condition dans les lois nationales.
Il a fini par le faire, sous impulsion des...
Pression, menaces, sanctions, etc. Mais il y a aussi une condition dans les lois nationales, pour certains pays qui disent, oui, quand il y a des infractions d'ordre politique, on ne peut pas extrader. Donc le Rwanda pouvait dire, écoutez, mais ces gens sont poursuivis parce qu'ils voulaient tenter un coup d'État ou renverser le régime, ce sont des infractions politiques, moi je ne peux pas les extrader. Bon, peu importe. Mais les choses ont changé parce qu'ici, il y a une sorte d'épée d'Amos qui pèse sur le Rwanda, sa signature. J'ai les documents, si vous prenez la résolution, l'accord d'Addis Abeba, le président Kagame lui-même a signé, sa signature est là, lui-même. Et donc, aux Nations Unies, le Conseil de sécurité, le gouvernement Rwanda est là et siège. Donc, il y a le contexte a changé, mais comme je l'ai dit, le gouvernement congolais a aujourd'hui une position, une bonne posture sur le plan international. Il a des instruments de travail, il a des portes où il peut toquer pour dire, messieurs, voilà, le Rwanda n'exécute pas les mandats, est-ce que vous pouvez intervenir pour faire pression? Donc on est le gouvernement est dans une bonne position. Maintenant, c'est au gouvernement d'utiliser tous ces instruments de travail pour arriver à ses fins.
Merci. Mokili Adéribo de Bounia, province orientale. Ne pensons pas que le Rwanda aura la bonne foi pour livrer ces criminels qui œuvrent pour son propre compte. Souvenons-nous de Laurent Kunda. Gilbert Tchema de Kinshasa, c'est une épée dans l'eau, car le cas Laurent Kunda doit nous rappeler davantage. Oracle de Kalemi au Katanga, je trouve que ces mandats n'auront aucun effet, car le premier mandat lancé contre Kunda n'avait rien produit et que le gouvernement cesse de nous distraire. Dispas Kitenge, que faut-il faire, n'est-ce pas, pour que ces mandats puissent aboutir à l'extradition de ces quatre dirigeants du M23? Le procès a dit que le contexte n'est plus le même. Nous sommes en 2013, on n'est plus en 2011, et plutôt on n'est plus en 2009. Les choses ont beaucoup changé et que ces mandats ont beaucoup plus de chances d'aboutir.
Je dis premièrement que les réalités sont restées les mêmes. Celles d'hier, d'aujourd'hui, sont les mêmes. Le Rwanda, c'est un cas d'école en droit international. Pourquoi je l'ai dit? Puisque le Rwanda n'a jamais cessé d'envahir le Congo, de violer son intégrité territoriale. Et ça, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Donc, le Rwanda, c'est un mauvais élève du droit international. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, le Rwanda va faire exception, s'il n'y a pas une pression. Deuxièmement, je disais qu'il faut utiliser tous les moyens en possession du gouvernement congolais. Il y a le moyen juridique, le moyen politique, le moyen diplomatique. Et cela se résume en termes de pression. En termes de pression sur le Rwanda, en termes de stratégie nationale en RDC qui puisse avoir des répercussions sur le plan international, ce n'est que de cette manière que le Rwanda peut céder. C'est vrai que sur le plan du droit international, la CPI a toujours la possibilité d'intervenir quand la procédure judiciaire n'est pas encore déclenchée. Ça, ce n'est qu'un mandat qui est fait. Et si du côté de la CPI trouve qu'elle a des éléments de crime, bien sûr qu'elle est complémentaire aux juridictions congolaises, mais si on n'a pas encore commencé vraiment à déclencher toutes les procédures judiciaires, la CPI pourrait toujours intervenir. C'est vrai que le Rwanda va compliquer toujours l'affaire, puisque le Rwanda, pas plus tard qu'hier, est encore présent, et aujourd'hui il est encore présent au Congo. Je pense qu'il ne faut pas être rêveur. Il faut vraiment aujourd'hui que la diplomatie congolaise soit plus ajustante, que les stratégies du gouvernement congolais sur tout le plan puissent être mises en œuvre pour que le Rwanda puisse exécuter. Mais je ne suis pas rêveur, je suis plutôt réaliste pour dire que le Rwanda ne va pas exécuter de bonne foi ce mandat. Pourquoi? Puisque le Rwanda est complice à tout ce qui se passe. Merci. Le Rwanda est le parrain de politique et militaire de tous ceux qui sont incriminés.
Merci.
Et le Rwanda trouvera que ce serait vraiment une trahison de sa part de pouvoir les extrader. Et il faudrait vraiment compter sur les grandes puissances qui sont des partenaires importants du Rwanda, qui puissent exercer les pressions sur le Rwanda, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne.
Merci,
en général.
Maître Richard Bondo, nous allons prendre pour vous cette réaction.
Samuel Letambwe Lubangi à partir d'Uvira au sud de Kivu. Ces mandats sont les bienvenus pour les Congolais qui voudraient voir leur bourreau être extradé et jugé. Malheureusement, ils resteront lettres mortes car Kigali n'honorera pas la demande de la RDC de peur d'être juge et parti. Et Kinshasa le sait bien car il n'est pas à sa première tentative dans ce sens.
Ces mandats resteront lettres mortes.
Non.
Quels sont les atouts à votre avis, les atouts pour que cette démarche du gouvernement congolais puisse aboutir à l'extradition de ces quatre dirigeants? Il y a le monsieur Dismas Kitenge qui a demandé à ce que la RDC puisse utiliser tous les moyens à sa disposition, n'est-ce pas, notamment les pressions internationales.
Mais exactement. Nous avons déjà une jurisprudence. Ntaganda est allé à la CPI à partir de quel territoire?
Du Rwanda.
À partir du Rwanda. Est-ce que le Rwanda n'a pas négocié avec les États-Unis, avec la RDC et la RDC et le Rwanda et les États-Unis et la CPI pour que Ntaganda parte? C'est-à-dire que finalement, le Rwanda, bien que n'étant pas parti au statut de Rome, a compris pour le camp Ntaganda que non. Les crimes avec la pression, les pressions internationales et la pression même de la RDC qui négociait avec lui déjà à Kampala, le Rwanda s'est remis à l'évidence.
Et donc vous pensez que les conditions sont réunies pour que cette démarche puisse aboutir?
Elle peut aboutir parce que ceux qui croient simplement à la CPI, ils misent sur la fragilité de notre système judiciaire. Mais aujourd'hui que l'auditeur général a lancé le mandat, appuyé par le gouvernement, appuyé par le Conseil de sécurité lui-même auquel siège le Rwanda, je crois que cette fois-ci, en vertu de l'article 103 de la Charte des Nations Unies, le Rwanda va exécuter ce mandat. Et seulement ma réserve est que si parmi les quatre il y a un, deux ou trois Rwandais, le Rwanda aura des difficultés à les lâcher. Mais la jurisprudence nous renseigne. La plus récente, c'est la jurisprudence Ntaganda. Ntaganda, qui est Rwandais, a Merci. Été envoyé à la CPI par le Rwanda.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Procès Sivan Kalala, vous entrevoyez, n'est-ce pas, un procès ici au Congo contre Runiga et consorts?
Oui, mais écoutez, ce sont des Congolais. Je comprends bien. Et donc, s'ils sont extradés d'abord, s'ils sont arrêtés, il faut que le Rwanda les arrête d'abord, que le gouvernement introduise la demande d'extradition dans une deuxième phase. S'ils viennent ici, ce sont des citoyens congolais, ils auront des avocats qui vont juger, donc ça va marcher. Sauf si le gouvernement congolais cède le dossier à la CPI, ok? Alors, en ce moment-là, ils vont aller à la CPI.
Merci, Dismas Kitenge. Un mot en guise de conclusion.
C'est une étape dans la longue marche dans la lutte contre l'impunité, le droit à la justice dont doivent bénéficier les victimes. Je ne suis pas rêveur, je pense que le Rwanda ne va pas le faire s'il n'y a pas de pression.
Merci Dismas Kitenge, c'est la fin de cette émission. Guy Mandango était la technique, Kelly à la réalisation assistée de Samuel Kachak sous la supervision de Julien Nyamoni. Devant ces micros, Guy Maté, merci et bon suite du programme sur Radio Capi.